Bonsoir. Nous retrouvons donc David Christoffel pour cette dernière séance du cycle L'objet de la musique. Séance consacrée ce soir au métronome et à la baguette, et donc plus généralement à la mesure du temps en musique. Si vous souhaitez écouter ou réécouter l'ensemble des conférences de ce cycle, vous pouvez en retrouver les enregistrements sur notre site internet, donc sur le site internet de la bibliothèque. Donc il me reste à remercier chaleureusement David pour l'animation, la conception de ce cycle, et à vous souhaiter une excellente soirée.
Eh bien, merci beaucoup, bonsoir. D'abord, comme la dernière fois, je vais commencer par l'inventeur de l'objet par lequel on va commencer, qui est le métronome. Je vais parler essentiellement de deux objets aujourd'hui, qui sont donc le métronome et la baguette du chef d'orchestre. Et il se trouve que autour de la figure de Maelzel, dont le nom s'affiche, l'allemand Johann Nepomuk Maelzel, qui était mécanicien de la cour de l'empereur d'Autriche, il y a, on pourrait dire, deux mystifications. Il est connu pour avoir inventé un certain nombre de machines spécifiques spectaculaire, comme l'orchestre mécanique ou encore la poupée parlante, ou bien comme on le voit en bas, la trompette, enfin le trompettiste même automatique. Et puis on dit parfois qu'il avait inventé le joueur d'échecs mécanique, qui intervient aussi dans l'histoire de la magie. Alors le fait est qu'à la fin du XVIIIe siècle, les mécaniciens côtoient assez facilement les prestidigitateurs, et il y a pas loin des inventions scientifiques au spectacle de magie. Le principe de l'illusionnisme étant de défier la raison, il y a une certaine logique à ce que on fasse consécration de la raison à travers des jeux de Dupri. Et d'ailleurs, les inventions de tours de magie peuvent prendre l'allure de concours d'intelligence, avec l'exemple en 1770, après un spectacle de magie de François Pelletier à la cour de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse au château de Schönbrunn, de Johann Wolfgang von Kempelen, qui promet à Pelletier de revenir au château avec une invention qui dépasse sa magie. Et alors, pour défier le prestidigitateur, Kempelen a construit donc un automate joueur d'échecs, connu par la suite sous le nom de Turc mécanique. Et alors, après la mort de Kempelen en 1804, le Turc mécanique reste quelque temps sans être exposé, jusqu'à ce que le fils de l'inventeur, le fils de Kempelen, le vende à Johann Nepomuk Maelzel. Alors à vrai dire, il avait déjà essayé de faire la transaction avec Kempelen, qui lui proposait pour 20 000 francs, ce qui était trop pour Maelzel, qui a réussi à l'avoir moitié prix avec le fils. N'empêche qu'après l'avoir acheté, Maelzel, donc, qui est aussi connu comme inventeur du métronome, restaure le Turc automécanique et lui fait faire de nouvelles apparitions, avec une des apparitions particulièrement célèbres, qui est celle où il fait jouer le Turc mécanique avec Napoléon Bonaparte. Et cette scène est racontée par Constant, qui était le premier valet de Napoléon, dans ses mémoires qu'il publie un peu plus tard, en 1830. Alors, je vais vous lire un extrait de ses mémoires de Constant. Le château de Schönbrunn était le rendez-vous de tous les savants illustres de l'Allemagne. Il ne paraissait point un ouvrage nouveau, point une invention curieuse, qu'aussitôt l'empereur ne donna l'ordre de lui en présenter les auteurs. Ce fut ainsi que M. Maelzel, le fameux mécanicien, inventeur du métronome, fut admis à l'honneur d'offrir à Sa Majesté plusieurs pièces de son invention. L'empereur admira les jambes artificielles destinées à remplacer bien mieux et plus commodément que des jambes de bois celles que les boulets emporter. Il le chargea de construire un char pour emporter les blessés du champ de bataille. Ce char devait être fait de telle sorte qu'il pût être employé, se charger facilement en croupe des gens à cheval qui se trouvent à la suite de l'armée, comme les chirurgiens, les aides, les employés, etc. Monsieur Maelzel avait aussi fabriqué un automate connu dans toute l'Europe sous le nom du joueur d'échecs. Il l'avait apporté à Schönbrunn pour le faire voir à Sa Majesté et l'avait monté dans l'appartement du prince de Neuchâtel. Donc, on peut dire que le valet de Napoléon croyait à tort que Maelzel était l'inventeur de ce Turc mécanique qu'il avait en fait acheté au vrai inventeur Kempelen. Il n'empêche que l'empereur alla chez le prince que le valet de Napoléon le suit avec quelques personnes, et je reprends le récit que fait le valet, l'automate était assis devant une table sur laquelle le jeu d'échecs était disposé. Sa Majesté prend une chaise et, s'asseyant en face de l'automate, dit en riant « Allons, mon bon camarade, à nous deux ». L'automate salue, fait signe de la main à l'empereur, comme pour lui dire de commencer. La partie engagée, l'empereur fait deux ou trois coups et pose exprès une pièce à faux. L'automate salue, reprend la pièce et la remet à sa place. Sa Majesté triche une seconde fois, l'automate salue encore, mais il confisque la pièce. C'est juste, dit Sa Majesté, et pour la troisième fois, elle triche. Alors, l'automate secoue la tête et, passant la main sur l'échiquier, il renverse tout le jeu. Alors, cette histoire a fait l'objet de bien des anecdotes, plus ou moins véridiques, mais il est bien établi qu'en effet, cet automate était en fait un faux automate, qu'il y avait un humain caché dans la machine, que le meuble possédait des portes qui pouvaient s'ouvrir pour montrer une mécanique et des engrenages internes qui s'animaient lors de l'activation de l'automate, mais qui était en fait, effectivement, un trucage, et donc pas une vraie mécanique. Donc, double mystification. D'abord, le joueur d'échecs automatique n'était pas un vrai joueur d'échecs automatique, mais une espèce de boîte à magie, et d'autre part, cette invention n'est pas de Maelzel, mais de, j'ai oublié son nom, Kempelen. Alors il se trouve que Maelzel n'a pas non plus inventé le métronome, qu'il a racheté l'invention à Dietrich Nikolaus Winkel, et comme il avait un réseau social plus large que le vrai inventeur, c'est bien Maelzel qui obtient à Paris le brevet de l'invention du métronome en 1815. Et c'est au nom de ce Maelzel que l'on a la référence de la mention MM des partitions de l'époque qui veulent dire métronome de Maelzel. Et puis dans un récent numéro de la revue d'histoire du 19e siècle, en 2012, Aurélie Barbouska a fait une étude qui raconte tout de même l'effort promotionnel que Maelzel, lui, a pris en charge dès l'obtention du brevet, grâce auquel des compositeurs comme Cherubini, comme Méhul, Boieldieu ou encore Pleyel et Le Sueur ont pris connaissance de l'existence du métronome. Il s'en est fait un peu une sorte d'ambassadeur en envoyant un exemplaire du métronome à 200 des plus connus compositeurs de son époque, et c'est donc l'un de ses amis, Beethoven, qui devient un ambassadeur de l'objet. Alors, Aurélie Barbouska, en faisant cette histoire du métronome, cite la phrase de Beethoven qui dit et qui vante de cette manière très spécifique l'avantage du métronome. « Relativement aux indications de tempo, qu'y a-t-il de plus absurde que le terme allegro qui signifie une fois pour toutes joyeux ? Alors que nous sommes si éloignés du sens de cette indication, de telle sorte que le morceau lui-même dit le contraire de l'indication. Quant à moi, c'est Beethoven qui parle, j'ai imaginé depuis longtemps renoncer à ces appellations absurdes, allegro, andante, adagio, presto. Le métronome de Maelzel nous en donne la meilleure occasion. » Autrement dit, pour Beethoven, au-delà de l'enjeu technologique, il y a un enjeu pratiquement idéologique, c'est qu'il s'agit, grâce au métronome, de joindre ce que la tradition a artificiellement associé, à savoir le mouvement et le caractère. Si, qui plus est, Beethoven prend le mot allegro pour exemple, c'est que dans tous les termes italiens qui indiquent des mouvements, c'est sans doute, d'ailleurs on pourrait le dire de la part aussi de Maestoso, ces termes qui sont censés indiquer d'autant plus le caractère autant le caractère que le mouvement. Alors Beethoven a rendu hommage à son ami Maelzel, notamment en lui écrivant un canon pour son anniversaire, et qu'il réutilise dans le deuxième mouvement, Allegretto Scherzando, de sa 8e symphonie. Donc voici un extrait dont vous allez reconnaître à la métrique très droite en quoi il y a effectivement hommage au métronome. Thank you. Alors, effectivement, pour le coup, dans cette allegretto, donc censément un peu allègre, Beethoven garde une couleur émotionnelle assez proche de celle qui est traditionnellement dévolue à l'allegretto, et donc il fait jouer à la mécanique une espèce de rôle pratiquement dramatique, si bien que on peut dire qu'il joue sur les deux tableaux en même temps pour les avoir disjoints. C'est quand même effectivement distinctement qu'il fait allègre dans le caractère et allègre dans le mouvement. Alors dans l'essai que j'avais déjà cité dans la première conférence de Derek Cariou de Mechanical Muse, le musicologue fait un rapport entre les titres des œuvres et la précision des indications de jeu, et qui, d'une certaine manière, va entamer, au moment de l'invention du métronome, une mécanisation des effets émotionnels qui seraient programmés par les œuvres. Alors il relève comme ça, par exemple, le cas d'un compositeur qui s'appelait Kramer et qui fait des indications comme moderato innocente ou bien adagio sentimental, comme si dès lors il fallait préciser le caractère des mouvements qui, avant, n'avaient pas besoin de précision de caractère, puisque le mouvement incluait d'une certaine façon son caractère. Et Derek Cariou va même un peu plus loin, puisqu'il soutient l'idée que la tentation de la description vient à la musique pour clavier, en même temps que le clavier va impliquer une abstraction des formes par une mécanisation des mains dont on avait pu faire le commentaire il y a deux semaines. Alors, ces différents paramètres peuvent effectivement faire que l'objet de mesure, que son mouvement peut maintenant se mesurer, et que la musique va être une activité plus autonome puisqu'elle va pouvoir préciser ses caractères indépendamment de son ébille. Alors c'est pourquoi aussi le métronome est un succès, puisque cette indépendance du mouvement par rapport au caractère va se jouer aussi à l'échelle de l'apprentissage, puisqu'il va donner des idées d'exercice. On peut travailler par exemple de plus en plus vite, on peut grâce au métronome visualiser la difficulté d'un exercice à mesure qu'on fait monter le nombre de battements par minute, puisque ce sont les BPM que donnent les chiffres, enfin les nombres mis sur le métronome. Et comme diront Émile et Nanine Chevet dans les années 1850, il faut séparer, quand on apprend le chant par exemple, l'étude de l'intonation de celle de la mesure, pour ensuite réunir ces deux choses. Cela dit, dès les années 1820, c'est-à-dire dès le moment où est inventé le métronome, et au même titre que le chiroplaste qui lui est exactement contemporain, le métronome est censé apporter de la souplesse aux apprentis musiciens à force d'exercice, et c'est ce que pointe le rapport de l'Institut de France que rédige un certain Henri Montan-Berton, qui explique que le métronome est à la musique ce que la boussole est à la navigation, et au point qu'il préconise que le prix du métronome ne soit pas trop haut pour être accessible à toutes les bourses. Alors, il est effectivement fixé, Aurélie Barbouska a trouvé des documents de 1835, à 25 francs. Pour se donner un rapport de grandeur, la commande d'un opéra à un compositeur à l'époque était à 5000 francs, et une clarinette valait 125 francs. Donc finalement, un métronome à un cinquième de clarinette, ça fait cher le métronome ou pas cher la clarinette, sachant que le piano était à l'époque entre 650 et 900 francs selon les qualités de piano. Alors ce que le métronome change surtout, c'est qu'on va changer de rapport au mouvement, au sens où on va petit à petit remplacer la notion de mouvement par la notion de tempo. Et d'un côté, ça va créer un attrait pour les vitesses extrêmes, en même temps, ça va produire une sorte de défiance au mouvement naturel qu'auraient les airs. Dès lors qu'on peut varier le tempo autant de fois qu'il y a de crans sur un métronome, eh bien, on va produire un nouveau type d'artifice qui ouvre une nouvelle manière aussi de se comporter par rapport à mélodies déjà connues. Et c'est comme ça que le jeune Liszt, dans les années 1820, va corriger et marquer au métronome, comme on disait, des préludes et exercices de Clémenti. Et qui dit réécriture dit parodie. Et là, on a un travail de Jeanne Roudet qui pointe comme effectivement Clémenti, Schumann vont reprendre des airs du passé pour les mettre dans des positions de pastiche. Et quelque part, c'est pas un hasard si c'est en même temps qu'on varie de façon mécanique le débit d'une même mélodie de par l'incitation du métronome. Donc en même temps qu'on passe d'un mouvement à un tempo, si la vitesse d'exécution peut être chiffrée, elle devient mystérieuse, du moins elle devient objet de concurrence d'autorité, si on en croit une anecdote qui est rapportée par Serge Guth à propos de Liszt. À la séance du 5 juin 1884, pour être précis, il jouait à deux pianos avec l'un de ses élèves, le Concertstück pour piano et orchestre de Schumann, et s'est posé la question, enfin l'élève demande à quel tempo il fallait le prendre. Et Liszt dit, bah, on va le prendre au tempo indiqué par Schumann, et constatant qu'il n'était pas bon en le jouant, fait la remarque, chez Schumann, on ne peut pas se fier à de telles indications, vous savez qu'il avait le métronome détraqué. Et l'idée du métronome détraqué est de fait assez répandue, et il arrive qu'on accuse par exemple aussi Beethoven d'avoir un métronome qui marchait pas bien, sachant qu'il y a aussi des compositeurs qui auraient pour le coup un rapport plus stratégique aux indications de métronome qu'ils mettaient sur leur partition, par exemple Wagner, est réputé pour avoir peur qu'on dirige sa musique trop vite, si bien qu'il aurait sciemment mis des indications de tempo particulièrement lentes, voire plus lentes que ce qu'il attendait vraiment, selon ceux qui se sentent plus justes de le jouer un peu plus vite que ce qu'il a pu indiquer, alors que Richard Strauss aurait fait l'inverse, à savoir mettre des tempos plus rapides qu'il ne voulait, de peur d'avoir un résultat toujours trop lent. Bref, avec... un outil qui prend autant de place dans les pratiques musicales, il y a tout un jeu de précautions d'usage qui commence à s'installer. Il y a par exemple aussi l'idée qu'il faut utiliser le métronome pour les exercices mécaniques, mais surtout pas dans l'apprentissage de tout ce qui serait plus stylistique. Et là, dans l'éducation musicale d'Albert Lavignac, qui était l'un des professeurs de Satie et qui écrit cet ouvrage en 1902, eh bien, il est rare que le sentiment de la mesure ne soit pas instinctif, car en définitive, presque tout le monde marche à peu près en mesure, mais ce sentiment exact, quand il n'existe pas naturellement d'une façon suffisante, peut être développé par l'exercice de la marche bien scandée, en comptant les pas comme dans la marche militaire. 1, 2, 1, 2, 3, 4, il écrit, ou par la danse, et il ajoute, on peut également cultiver cette faculté en s'aidant avec prudence du métronome, qui n'est pas autre chose qu'une horloge battant des fractions de seconde avec une régularité mathématique et inflexible. Cette inflexibilité même, il ajoute, qui fait toute sa valeur, deviendrait un défaut si on abusait de ce moyen mécanique. Alors, on n'est pas loin, quand on utilise le métronome de cette façon réduite aux mécaniques, d'en faire un usage, on pourrait presque dire, orthopédique. Et du reste, on relève quelques usages en fait, thérapeutiques du métronome à la fin du 19e siècle. Parmi tous les remèdes imaginés pour soigner la chorée, qu'on appelait aussi la danse de Saint-Guy, il y avait un médecin tourangeau, Armand Trousseau, qui faisait faire aux malades des mouvements rythmiques en les plaçant devant l'instrument appelé métronome, et il les forçait à mettre leurs mouvements en mesure avec les oscillations de ce balancier. Et il croyait que par cette méthode, une volonté étrangère pouvait se substituer peu à peu, je cite, à la volonté du malade, impuissant à coordonner les mouvements. Alors maintenant, quand on va redonner au métronome un rôle d'instrument de musique, c'est en fait parce qu'on va lui donner un rôle dramatique. Il peut comme ça servir à donner un tempo pour s'entraîner à jouer dans une mesure régulière, mais comme on l'entend effectivement dans cette pièce de Maurizio Kagel, quand il est en accompagnement, il va prendre le rôle de donner une espèce de suspense. C'est une pièce de 1976. C'était un extrait de la pièce MM51, extrait assez significatif puisque la pièce dans son intégralité dure à peu près le double, c'est-à-dire autour de 8 minutes. Alors, ce que fait Maurizio Kagel, MM51, ça veut dire métronome de Maelzel réglé à 51, c'est effectivement qu'il consacre la force dramatique du métronome, et tel qu'il s'y prend, il donne au métronome 51 une dimension lugubre. Cela dit, il va de ce point de vue-là presque à l'encontre de Beethoven, puisqu'il semble induire l'idée que 51 est trop peu pour conquérir la moindre joie. Mais en tant que valeur dramatique, pour le coup, l'élément mécanique lui-même est devenu suspect dès l'apparition du métronome. Et dès 1821, Berton, qui est celui qui avait fait le rapport à l'Institut de France si élogieux pour le métronome dans son usage pédagogique, soutenait cependant l'idée que la musique mécanique était de la musique basse. Et il s'en prenait notamment à Rossini, en reprochant à la musique de Rossini de ne pas s'élever au-dessus de la musique mécanique, de ne pas être toujours pure et correcte, en soutenant l'idée que la pureté du style n'est pas à dédaigner et les fautes de la syntaxe de la langue dans laquelle on écrit ne sont jamais excusables. Et dans son essai de la musique mécanique et de la musique philosophique, qui date de 1826, Berton thématise une opposition entre la musique philosophique, donc comme la musique respectueuse des règles d'harmonie pour parfaire la puissance morale de la musique et assurer sa dignité dans la hiérarchie des arts, en l'opposant à la musique mécanique qui ne fait qu'assembler des effets, agencer des artifices, actionner les charmes sensoriels. Et on a donc cette longue citation qui fait référence à une discussion que Berton avait eue avec Maelzel, donc l'inventeur du métronome. « Je venais d'admirer son automate joueur d'échecs », donc encore un dupe effectivement de l'idée que soit Maelzel qui l'a effectivement inventé. Je lui fis cette question. Puisque vous avez eu l'art de lui faire prononcer le mot échec et que vous avez fait un automate qui sonne de la trompette, vous pourriez peut-être nous faire des chanteurs. Il me répondit, oui, il me serait facile d'en faire qui pourrait exécuter des roulades, des tours de force comme mesdames, on pourrait dire bip et messieurs bip, mais pour en faire comme les Toldi, les Morier, Lille, les Saint-Uberti, les Crescentini, cela n'est pas en ma puissance. Je venais d'admirer son automate, satisfait de cette première réponse, je lui fis une seconde question. Puisque vous avez calculé toutes les chances de l'échiquier et qu'elles sont bien plus nombreuses que celles de l'harmonie de notre système musical, vous pourriez peut-être aussi construire une machine propre à composer de la musique. Et voici la réponse qu'il fait à cette seconde question. Oui, je pourrais en faire une propre à composer de la musique telle que celle de messieurs, mais alors là, il faut vraiment comprendre Rossini, mais non qui puisse rien produire de semblable aux œuvres de Mozart, des Cimarosa, des Schini, etc., etc. Ce pouvoir ne m'est pas imparti, mon art n'y peut prétendre, à la divinité seule appartient ce droit. Donc, la ruse argumentative de Berton est de dire, moi, je considère que la musique philosophique est supérieure à la musique mécanique, et j'en prends pour avocat l'inventeur même du métronome, le mécanicien Maelzel, ce qui le renforce dans son bon droit puisqu'il prend une espèce de faux ennemi. Il revendique donc cette subtilité que le mécanique est un progrès incontournable dans l'exécution de la musique, tandis qu'il ne peut pas être la finalité de l'art musical. Alors pour se défendre des fautes dont il serait coupable contre les règles de la composition, Rossini faisait presque amende honorable en plaidant la pression au délai de production avec une espèce de dilettantisme revendiqué. Il disait « Je n'aurais pas tant de fautes à me reprocher si je lisais deux fois mon manuscrit, mais vous savez que j'ai à peine 6 semaines pour composer un opéra. Je m'amuse pendant le premier mois. Enfin, arrivent les 15 derniers jours. J'écris tous les matins un duetto ou un air que l'on répète le soir. Comment voulez-vous que je m'aperçoive d'une faute de grammaire dans les accompagnements ?» Si bien que Rossini revendique quand même que dans la partie vocale, il ne fait pas de faute de grammaire, mais qu'il les laisse passer dans la partie de l'accompagnement. Donc Rossini ne dénigre pas l'importance et la qualité des règles de la grammaire musicale, simplement qu'il ne prend le temps que pour les voix. Et il reconnaît qu'il ne peut pas tout faire, que le résultat ne peut pas être parfait faute de moyens. Et le fait qu'il n'a donc pas vocation à être perfectionniste, fait qu'à ce titre, il n'est pas un classique. Tout ça est rapporté par l'un de ses défenseurs contemporains, Stendhal, qui, dans sa vie de Rossini, prend acte de l'insuffisance des moyens à disposition. Mais la stratégie d'argumentation de Stendhal n'est pas tout à fait la même que celle de Rossini, puisque ce que fait Stendhal, c'est de dire finalement Berton a raison, la science est plus importante que les charmes que la musique peut procurer, sauf que l'argument de Stendhal, c'est de dire sauf que la science, elle, n'est pas assez avancée. Il écrit « La science est nécessaire pour écrire de l'harmonie, voilà la nécessité fatale qui a donné le prétexte aux sots et aux pédants de toutes les couleurs pour s'immiscer dans la musique. » Et peut-être est-ce que dans cette phrase-là, il faut entendre une charge contre un faux savant, une espèce de pédant que serait l'inventeur du métronome, Maelzel. Et là où Stendhal n'est pour le coup philosophiquement pas classique, mais tout en cherchant quand même à greffer une espèce de rationalité sur l'ironie de Rossini, c'est qu'il fait porter cette insuffisance de moyens sur l'état de la science. Il dit « la science du chant, telle qu'elle est aujourd'hui au Conservatoire de Paris, enseigne à produire une suite de mots bien enchaînés d'après les règles de la syntaxe, mais du reste, ces mots n'offrent aucun sens. » Il est donc en fait d'accord avec l'importance d'obéir aux règles, il est d'accord avec Berton, sauf qu'il reproche aux règles de manquer de précision dramatique. Et la défense de Rossini va consister alors à bien appuyer sur le fait qu'à défaut de bien respecter les règles, l'efficacité dramatique de ces opéras permet de colmater l'endroit où les règles pourraient être défectueuses. Et donc Stendhal poursuit, ces fautes de Rossini sont-elles de véritables fautes? Qui a fait cette grammaire? Sont-ce des gens supérieurs en génie à Rossini? Il ne s'agit pas ici, comme pour les langues, de noter avec une scrupuleuse fidélité les usages d'une nation. Les gens qui ont écrit la langue musicale sont en trop petit nombre pour qu'il y ait, à proprement parler, un usage général. Et il a cette phrase, la musique attend son Lavoisier. Alors, par la référence à Lavoisier, Stendhal, effectivement, entend engager un programme proche de certaines promesses neuromusicologiques comme on peut en trouver aujourd'hui, qui se frotte à une sorte de phrénologisme qui consiste à pousser la science de la grammaire musicale jusqu'à identifier les formes musicales qui ont tels effets sur l'esprit humain. De même, quand vous créez une playlist sur votre iTunes en mettant « épi », où vous classez les musiques qui sont censées vous procurer de la joie. Eh bien, de la même façon, Stendhal avait pris certains airs des opéras de Rossini en essayant d'indexer quelles humeurs ou quel effet émotionnel tel air devait produire. Alors il dit par exemple, lorsque songeant à quelques souvenirs de notre propre vie et agité encore en quelque sorte par le sentiment d'autrefois, nous venons à reconnaître tout à coup le portrait de ce sentiment dans quelques cantilènes de notre connaissance, nous pouvons assurer qu'elle est belle. Et donc il va finalement, au contact des airs d'opéra de Rossini, développer ce qui sera ensuite sa théorie de la cristallisation en amour, à savoir prendre un objet un peu fétiche et à force de le fétichiser, en faire effectivement l'objet de toutes ses joies. Alors la référence à Lavoisier, elle est peut-être là finalement dans le fait que la cristallisation est mécanique, mais que ce mécanisme peut emporter même la part poétique que l'on peut avoir, puisque Lavoisier, c'est jamais que la reprise à l'âge classique du principe matérialiste d'Anaxagore, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, principe que Stendhal réinvestit pour dire que l'énergie caractéristique d'une œuvre musicale se convertit en réplique nerveuse comparable en termes de caractère. Ce qui tendrait d'ailleurs à laisser penser que les œuvres musicales ne peuvent avoir, en vertu de leur facture, qu'un effet univoque sur les émotions et sur les âmes. Alors, en soi, de tout ça, le métronome n'y est peut-être pour rien, sinon qu'il nourrit quand même un contexte de mécanisation de la musique. C'est pas par hasard si Maelzel est pris tellement à témoin de ces débats, puisqu'on soupçonne la musique finalement d'avoir des effets automatiques sur les auditeurs. Et c'est effectivement la conclusion d'Aurélie Barbuccia qui qualifie cette automatisation dans l'ordre des rapports que cela induit aussi entre le compositeur et l'interprète. Elle dit « Si le pouvoir exécutif du grand compositeur est exacerbé par la double illusion d'objectivité et d'universalité de l'interprétation musicale que lui confère la mécanique, le fait effectivement de pouvoir fixer avec autant de précision le tempo de ses œuvres est aussi une espèce de pouvoir renchéri du compositeur. » Eh bien, Aurélie Barbuccia dit « De son côté, l'interprète décline peu à peu le rôle d'exécutant, qui lui est concédé au prix d'une affirmation totale de soi, d'où l'émergence d'un nouvel acteur au sein du champ musical, le compositeur virtuose romantique. » Alors, les grands exemples qu'on en a, ce sont bien sûr Chopin et Liszt, les mêmes qui vont affirmer une sorte de défiance à l'hyper-régularité métronymique en affirmant le rubato, enfin surtout Chopin. Et Léon, la définition du rubato, c'est varier le tempo à l'intérieur d'une phrase musicale ou bien l'échappée que l'on arrive à mettre entre deux pulsations, ce qui va devenir le point discriminant entre les interprétation de Chopin. Alors, dans la conférence d'il y a 15 jours, on évoquait Marmontel qui opposait deux grandes figures du piano, qui étaient donc Kalkbrenner et Frédéric Chopin, comme des antithèses marquées, deux écoles absolument différentes. La première faisant reposer la perfection dans une précision et une régularité justement automatique, l'autre admettant les procédés de mécanisme comme moyen, non pas comme but. Et le tempo rubato de Chopin, ses sonorités nuageuses, ses compositions ravissantes, mettaient donc le pur classique hors de ses gonds, pour citer Marmontel. Donc l'image d'un Chopin qui serait d'une part indécollable de son métronome, d'une précision technique, d'une régularité de mesure justement avancée pour permettre au rubato d'intensifier l'expressivité ou la puissance d'émotion des interprétations, si cela peut produire un débat sur effectivement laquelle est la raison de l'autre, le débat produit lui-même un emmêlement systématique de la question émotionnelle avec la question de la posture du compositeur pianiste face à ses moyens techniques. Et c'est toute l'ambiguïté quand on parle rubato, on parle Chopin, mais avec une espèce d'automatisme entre rubato et Chopin dans l'association d'idées, et l'automatisme qui va peut-être dévitaliser l'association, puisque si ça va de soi qu'il y a rubato en Chopin, Chopin devrait au contraire quand même montrer à quel point le rubato ne va pas de soi, ou plutôt n'exclut pas complètement le mécanique, puisqu'il a besoin du mécanique pour être en tension permanente avec lui. Ce qui caractérisait le jeu de Chopin, dit un témoignage d'élève, était son rubato, dans lequel le rythme dans l'ensemble conserve toujours ses droits. Et Chopin disait toujours, dit un élève, la main gauche, c'est le maître de chapelle, elle ne doit ni céder ni fléchir, c'est une horloge, faites de la droite ce que vous voulez et pouvez. Il disait, un morceau dure, admettons 5 minutes, seulement s'il a rempli cette durée dans son déroulement intégral. Dans le détail, il peut aller en aller autrement, voilà le rubato. Donc il y a cette idée que la main droite est inflexible pendant que la main gauche est inflexible pendant que la main droite chante. Et Liszt donnait pour définition du rubato chopinien, regardez ces arbres, le vent joue dans les feuilles, les fait ondoyer, mais l'arbre ne bouge pas. Donc la main gauche fait l'arbre et la main droite met du vent entre tout ça. Alors pour essayer de voir ce que ça peut donner quand on joue du Chopin, j'ai apporté deux versions du Nocturne en Do mineur opus 48 numéro 1, dans deux versions prises dans les compétitions de piano Chopin en 2010, au moment de l'anniversaire. La première version est d'Ilya Raskovski, et puis au lieu de prendre deux mêmes extraits, la suite de la version, donc ça fera une petite césure dont je vous prie d'avance de m'excuser, sera celle de Denis Zdanov.
Thank you.
Alors c'est en fait un topos romantique que de vouloir, pour le coup, tenir les deux bouts, de vouloir rendre compatibles la raideur et la fluidité, le naïf et le sentimental, le mécanique et le poétique, quitte pour le coup à dévaloriser le mécanique au profit du poétique, et de reconnaître une espèce de pureté musicale au titre d'une musique inconditionnelle. Et dans une critique des études de Hiller publiée en 1835, Schumann écrit « En tant que pédagogue, je recherche tout particulièrement trois choses, le contenu poétique, le contenu harmonico-mélodique et le contenu mécanique, c'est-à-dire ce qui profite au cœur, à l'oreille et à la main », ce qui est comme ça parfaitement réparti. Et au-delà de la perfection idéologique que ça représente, Karl Daus fait un rapprochement avec la posture sociale en écrivant la distinction qu'établit Schumann entre cet aspect poétique, c'est-à-dire la présence esthétique, et l'aspect mécanique de la musique implique un certain mépris de l'artisanat, considéré comme un métier que le compositeur doit certes maîtriser, mais dont il ne doit pas faire étalage, cette idée que la technique doit être dissimulé. Et c'est de là qu'il en déduit que, dans ses ambitions, l'art bourgeois hérite des valeurs aristocratiques, de l'art qui serait libéré des contingences techniques pour viser la théorie musicale et la contemplation de la perfection scientifique du système tonal. Puisqu'effectivement, avec la discrimination entre des artistes plus ou moins libérés des contraintes économiques et sociales, on peut mettre un enjeu scientifique dans la question, puisque de fait, l'art n'a pas attendu le 19e siècle et même le métronome pour avoir des prétentions d'objectivité et d'universalité, et on pourrait même se demander si c'est pas au nom de ses convictions quasiment ultra-libérales que Stendhal veut un art à ce point inspiré de la science. Ce qui rappelle du reste la préface du traité de l'harmonie de Rameau, exactement 100 ans avant De l'amour de Stendhal de 1822. En 1722, Rameau oppose les deux activités que sont la production de musique et la science du point de vue du progrès, en écrivant « Quelques progrès que la musique ait fait jusqu'à nous, il semble que l'esprit ait été moins curieux d'en approfondir les véritables principes à mesure que l'oreille est devenue sensible aux merveilleux effets de cet art. » D'une certaine façon, on s'est un peu trop laissé draguer par la musique pour qu'elle puisse progresser autant que la science pourrait permettre de la faire progresser, et c'est pour ça qu'il se donne autant d'efforts pour faire une théorie musicale aussi bâtie que peut l'être son traité de l'harmonie. Et d'une certaine façon, Stendhal reprend l'idée de Rameau selon laquelle les charmes de la musique peuvent compromettre la curiosité scientifique et retarder la science qui seule peut la faire progresser. Alors on peut essayer de faire un détour par les arts visuels et viser le mode de collaboration entre artistes et scientifiques. On peut prendre l'exemple de Réaumur qui, à la différence d'autres naturalistes de son temps, comme par exemple Plumier, ne maîtrisait pas la technique du dessin au point de devoir collaborer avec un illustrateur pour ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes qu'il rédige dans les années 1730. Et le dossier Réaumur des archives de l'Académie des sciences montrent que Réaumur fait des corrections des illustrations que lui propose sa collaboratrice Hélène Dumoustier de Marcilly. Il écrit par exemple « refaire ses antennes moins en grand et épanoui », puis il fait des petits dessins pour montrer comment faut faire et qui en même temps atteste qu'il ne sait pas dessiner. Et donc l'imagerie scientifique du siècle des Lumières devient comme emblématique d'une collaboration entre art et science qui est très en faveur de la science et donc du rationalisme. Alors on a deux historiens des sciences qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent l'imagerie de l'objectivité, Lorraine Daston de l'Institut Max Planck à Berlin et Peter Gallison de l'Université d'Harvard. Et dans leur essai qui a été récemment traduit en français, Objectivité, ils ont montré que cette relation entre Réaumur et ses illustrateurs n'était pas le modèle unique et que la soumission de l'illustrateur n'a pas toujours été aussi notable, en prenant à titre de contre-exemple parfait le cas de Pierre-Joseph Redouté, qui a fait notamment ce dessin, illustrateur botanique du Muséum d'Histoire Naturelle, justement au début du 19e siècle, qui arrive à avoir son seul nom, en gros, en couverture d'un ouvrage dont il avait fait les images, là où, habituellement, le nom des illustrateurs était, à l'époque, sur les pages de titre des atlas, en petits caractères, sous le nom des scientifiques. Alors pourquoi, dès lors, les mécaniciens ne prendraient pas le devant de la scène ? Pourquoi, après tout, le métronome ne serait pas lui-même le cœur du propos d'une œuvre musicale et pourquoi pas symphonique ? Puisque le métronome spatialise le temps, une fois théâtralisé, on pourrait dire que le rapport des compositeurs se trouve modifié à tous les paramètres du son. Et c'est pourquoi il est difficile de savoir sur quel plan est-ce qu'il faut prendre l'œuvre de Ligeti de 1962, qui est le poème symphonique pour 100 métronomes. Alors d'une part, on sait qu'il avait répliqué aux 4 minutes 33 de John Cage par une sorte de surenchère dans le silence absolu en proposant une pièce intitulée 0 minutes 0 secondes. On en parle comme une espèce de POC fluxiste, ce qui est donc sympathique, mais en tant que c'est sympathique, ça aide pas forcément à voir ce que ça peut changer au langage musical usuel. Or, ça change quelque chose, et avant de l'énoncer, je vais vous montrer un premier extrait de ce poème symphonique pour 100 métronomes de Ligeti, simplement la première minute pour l'instant. Alors c'est vrai qu'en général, quand on présente cette œuvre, on ne diffuse pas l'intégralité qui est inférieure à 10 minutes, mais on montre le début qui a ceci de spectaculaire. Et il est dommage de ne pas montrer la fin où les métronomes meurent un à un. Et c'est de la mort des métronomes qui effectivement réorganise quelque chose d'organique à l'intérieur du mécanique. Alors voici la dernière minute. Si vous faites le mouvement en même temps, d'après Armand Trousseau, ça peut vous soigner de la danse de Saint-Guy. Alors, Ligeti, effectivement, témoigne que de nombreuses expériences stylistiques et des changements ont été déclenchés dans son langage musical par ce morceau de 62, comme si ça l'avait décomplexé de la polyrythmie et qu'en le décomplexant de la polyrythmie, ça l'a décomplexé de la superposition d'éléments hétérogènes, y compris sur d'autres paramètres musicaux que le rythme. Il parle de constructivisme, au sens où cette expérience 62 lui a donné l'idée des études étude pour piano, où il fait une étude à une note, puis une étude à deux notes, puis une étude à trois notes, et ainsi de suite, et puis du concerto pour piano qui lui a donné l'élan en fait pour expérimenter les harmonies non tempérées, comme dans son concerto pour violon. Et puis là, je vous diffuse simplement les images d'une œuvre récente de Varvara Guliaeva pour vous montrer aussi que ce poème symphonique pour son métronome de Ligeti a pu inspirer des artistes jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est une œuvre, comme vous avez pu voir, qui date de 2011. Alors, ce qui est troublant pour faire la transition vers l'autre sujet de cette conférence, qui est la baguette, c'est que c'est à l'époque où on commence à généraliser l'utilisation du métronome, donc dans les années 1820, qu'apparaît l'usage de la baguette. Alors, quand on en refait l'histoire, on bute, on pourrait presque dire, sur l'image de Jean-Baptiste Lully, qui tenait le tempo en tapant par terre avec un long bâton utilisé à l'époque, qui se frappa accidentellement l'orteil pendant une répétition de son Tédéum pour la guérison du roi, ce qui a créé un abcès qui s'est gangréné. Lully a refusé de se faire amputer, la gangrène a fini par le tuer. Et on peut toujours en faire une allégorie, rendez-vous compte, le compositeur qui meurt sous le poids de la métrique. Mais le problème de cette anecdote, c'est qu'elle donne un caractère un peu rupestre à l'enjeu, alors qu'il était déjà engagé dans une problématique de mécanisation de la pulsation, puisque c'est effectivement pour Lully que l'instrumentiste Étienne Loulier conçoit en 1698 un chronomètre mécanique pour indiquer de façon la plus exacte possible le tempo des airs de Lully. Donc c'est dans l'environnement de Lully qu'on a ce premier ancêtre du métronome. Et puis à la suite de Loulier, on a un certain nombre de physiciens qui cherchent à améliorer l'invention de Loulier. Plus tard, au 19e siècle, Fétis a fait la liste. Alors, côté français, il y a Lafilar, Sauveur, Gabory, Pelletier, Renaudin, Breguet et Galin. On a aussi les chantres Weiske de Meissen, Stackel de Bourg, Crotch et Harrison en Angleterre, Bourgeat de Berlin, Gottfried Wehmer en Allemagne et Winkel à Amsterdam. Et puis, c'est Louis Spohr qui affirme avoir introduit la baguette, exactement le 10 avril 1820, en dirigeant sa deuxième symphonie à la Royal Philharmonic Society de Londres. Mais on a une espèce de contre-témoignage de Ignace Moscheles qui dit que le chef d'orchestre était assis et tournait les feuilles de sa partition, mais n'était pas en mesure, sans sa baguette, de commander à son armée musicale. Et il est intéressant de relever que l'introduction de la baguette est comme ça associée au commandement d'une armée, comme si dès le début la baguette devait convertir l'orchestre en régiment et rendait d'office la musique symphonique comparable à la musique militaire, puisque effectivement on va avoir souvent sur le compte du chef d'orchestre, à partir du moment où il a la baguette, la métaphore qu'il mène à la baguette et tous les problèmes d'autorité qui y sont associés. Alors avant d'en venir à ça, je voudrais essayer de voir quelles pourraient être les autres origines extra-musicales de la baguette. Il faut peut-être chercher un peu plus loin. On croit savoir que le premier à avoir publié des planches d'anatomie sur bois est un médecin allemand qui s'appelle Jean de Ketam, qui a vécu à Venise à la fin du XVe siècle. Et dans la première édition de son Fasciculus Medicinae, édité donc à Venise en 1491, on a la représentation d'un professeur d'anatomie bolognais du XIVe siècle qui s'appelait Mondoni de Luzzi, qui est en train de faire cours. En dessous du maître perché sur sa chaire pour lire ou commenter un livre, on voit ses assistants et ses élèves. Au centre, vous avez le prosecteur, qui est donc chargé de découper les chairs. Et sur la droite, il y a l'ostensor, qui montre effectivement la dissection avec une baguette dans l'édition de 1491, alors qu'il n'en a pas, il le montre du doigt dans l'édition de 1528. Alors, c'est pas extrêmement clair, n'empêche, on est dans l'idée d'un bâton d'ostentation qui doit être une sorte d'ancêtre de la baguette. Ce qu'il faut reconnaître dans la baguette, c'est effectivement une sorte de puissance de révélation, puisqu'on peut charger le vocabulaire de connotations sacrées, se rappeler qu'au-delà du chef d'orchestre, il y a la baguette comme attribut du magicien ou bien de la fée. Et puis, l'historienne Martine Dulaé, historienne des religions, a fait des recherches sur la baguette dans l'art paléo-chrétien et a pu montrer que la baguette du thaumaturge apparaissait de manière exceptionnelle mais quand même significative dans la main du Christ, dans un certain nombre d'iconographies de guérison et notamment sur des sarcophages. Ce qui voudrait dire que l'imposition des mains ne suffit pas toujours pour faire des miracles. Faut-il par exemple pour la guérison du lépreux brandir ce que les théologiens appellent la virga? Alors dans quelle mesure est-ce que la baguette donne au chef d'orchestre le pouvoir de faire des miracles. Le fait est qu'il est censé insuffler l'esprit, qu'il ne produit pas le son lui-même, ce qui veut dire que rien de la force de son esprit ne peut advenir sans la collaboration des musiciens. Alors, il suffit tout de même d'un opéra où un chanteur prend des libertés de tempo pour que le chef d'orchestre se retrouve au rang de simple métronome. Et pour ne prendre qu'un exemple, pour le coup pratiquement au hasard, on peut citer le journal de Montpellier de 1864, où on trouve le compte rendu d'une représentation de Robert le Diable de Meyerbeer. Et le chroniqueur s'en prend à une chanteuse. Il dit « On pardonnerait sans peine Madame Poussez son air distrait si son chant n'en souffrait pas, mais au contraire, ne prêtant aucune attention à ce qui se passe autour d'elle, notre prima donna va toujours son train en dépit de la baguette et du coup de pied du chef d'orchestre qui, faisant fonction de métronome, l'invite à ralentir le mouvement. » Autrement dit, plus les auditeurs, enfin plus les musiciens sont désobéissants et plus le chef d'orchestre va être réduit à devoir faire le métronome. Si on en revient à des considérations techniques, quand on apprend la direction d'orchestre, on apprend d'abord à tenir la baguette en général de la main droite. Et comme la main qui tient la baguette est aussi la main qui est en charge de battre la mesure, eh bien d'une certaine manière, cela donne une configuration exactement inverse aux préconisations de Chopin, qui voulait que la métrique revienne à la main droite et l'expressivité la métrique à la main gauche et l'expressivité à la main droite. Dans le cas du chef d'orchestre, il va rétablir une sorte de symbolique que le piano aurait contrarié, symbolique qui consiste à mettre les émotions et les sentiments du côté du cœur, du côté gauche, pour laisser la main droite s'occuper des affaires de tempo, de mesure, de règles, de dynamique. Alors on peut poursuivre l'analogie entre la direction d'orchestre et l'apprentissage du piano, puisque ça va passer par des exercices d'indépendance des mains, où on doit être capable de faire des choses avec la main gauche qui sont au bord de la dissonance cognitive de ce qu'on doit faire avec la main droite, comme en témoigne cet extrait de tutoriel de Oleg Caetani.
L'adagietto de la cinquième symphonie de Mahler, qui est à quatre temps, tout d'un coup, toutes les cordes jouent à trois temps. Mais l'harpe continue à quatre temps. Et les pianos, les autres font un crescendo. Donc, je reste piano à quatre temps avec l'harpe et avec les autres. Etc.
Alors, voici le passage concerné par deux chefs différents. Le premier, c'est Bernstein. Et le second, Guerrieff.
Thank you.
Alors Valérie Gergiev, pour le coup, dirige Sans Baguette, ce qui est parfois thématisé comme une réappropriation de la gestuelle. Comme c'est pour le coup une généralité qui souffre beaucoup d'exceptions, on ne va pas dire que tous les chefs qui dirigent Sans Baguette sont dans un désir de personnalisation de leur gestuelle forcément plus fort que les autres, mais pour autant, on a bien une sorte de lignée de chefs affranchis de la baguette, dans laquelle on peut donc citer Gergiev, mais aussi Léopold Stokowski, Mitropoulos, Noceda, Courtemazour et puis Pierre Boulez. Pour un chef qui s'appelait Ansermé, Sans Baguette, le chef est tenté de dessiner avec ses mains le rythme de la musique ou bien purement et simplement marquer des temps, ce qui ne suffit pas à imprimer au mouvement musical une impulsion motrice. Le paradoxe serait que en dirigeant Sans Baguette, on serait plus pris par les questions de métrique au lieu de réserver, on aurait plus deux mains droites finalement que deux mains gauches. Alors Pierre Boulez fait partie d'une autre lignée que les chefs qui dirigent Sans Baguette, il fait partie des chefs compositeurs, ce qu'il met dans la suite archi prestigieuse de Richard Strauss ou justement de Gustav Mahler. Et tant qu'à faire des métaphores, en tant que compositeur et chef d'orchestre, on peut dire que Gustav Mahler accueille les styles musicaux à bras ouverts, puisqu'il prend des airs de chansons, il prend Frère Jacques dans la première symphonie, des musiques militaires, ce que les philosophes relèvent comme des musiques mineures. Et en même temps qu'il prend effectivement des musiques extérieures à la musique savante, il prend la mesure d'un rythme qui n'est pas réductible à une indication de métronome. Et à travers l'anti-rationalisme de Nietzsche, dont Mahler était proche, on a l'idée que la musique doit conquérir un autre ordre rythmique que celui de la battue, un rythme vital, un rythme irréductible à une indication de métronome. Et dans un livre consacré au nietzschéisme de Mahler, Frédéric Bisson reprend une lettre que Mahler avait adressée à Richard Batka, qui explique qu'il veut aller au-delà des phénomènes qui réduisent la nature aux fleurs, aux petits oiseaux, aux parfums de la forêt, c'est-à-dire à l'ensemble des phénomènes donnés à notre expérience empirique. On est finalement dans l'attaque de la musique figuraliste. On pourrait penser à la symphonie pastorale de Beethoven, qui effectivement décrit la nature par son expérience empirique des petits oiseaux, des fleurs et tout ça. Et c'est intéressant pour nous que Frédéric Bisson mobilise comme ça le vocabulaire kantien, parce qu'il nous permet une nouvelle formulation de la question qu'on se pose ici, à savoir que le point commun entre le métronome et la baguette n'est peut-être pas tant le tempo que le fait de spatialiser le temps. Problème philosophique en soi depuis Emmanuel Kant, qui est la tendance à externaliser improprement ce qui est une forme interne de la sensibilité, qui est donc le temps. Et au moment où Mahler va écrire sa troisième symphonie, la Natur Symphonie, Camille Flammarion fait paraître en 1894 le roman La fin du monde, au sujet duquel les deux historiens des sciences dont je vous parlais tout à l'heure, Daston et Galison, cherchent à expliquer la réception. Parce que dans La fin du monde de Camille Flammarion, il y a une scène qui est faite pour être étrange. Au cours d'une séance publique de l'Académie des sciences de Paris, les Martiens envoient un message photophonique dans un code hiéroglyphique que les savants parisiens déchiffrent sans trop de problèmes, puisqu'ils comprennent du message qu'une comète se dirige vers la Terre tout droit sur le Vatican. Et ce qui étonne particulièrement Daston et Galison, c'est le débat qu'entraîne cet événement romanesque. Ce qui fait le scepticisme des gens de 1894, ce n'est pas tellement que Mars soit habité par des êtres intelligents, ce n'est même pas que les Martiens arrivent à nous envoyer des messages, à vrai dire, ce n'est même pas que l'on arrive à comprendre les messages que les Martiens nous envoient, et pas non plus que ces messages nous soient bienveillants et cherchent à nous protéger de la comète qui va nous tomber dessus. En fait, ce qui surprend le plus les gens de 1894, c'est que les Martiens connaissent l'Italie. C'est-à-dire que pour un Parisien de la fin du 19e siècle, il est à peu près admissible que les connaissances objectives universelles puissent être comme naturellement partagées par une société extraterrestre. Daston et Galison, du reste, constatent que dans les fantaisies fin de siècle, on a beaucoup de communications extraterrestres du genre et que cela pose pas de si grands problèmes de vraisemblance pour les contemporains. Mais ce qui perturbe le Parisien de l'époque, c'est que des connaissances aussi particulières que la situation et le nom de l'Italie puissent être connues des Martiens. Donc l'imagination est peut-être prête à combler le vide laissé par l'entendement, mais jusqu'à un certain point, au point que l'on se demande encore aujourd'hui si le chef d'orchestre, de par sa puissance à insuffler l'esprit à un orchestre, est tout à fait utile, et si les musiciens ont vraiment besoin d'un chef d'orchestre pour jouer ensemble. Et alors en 2012, à l'Institut de technologie italien à Gênes, il y a un jeune chercheur en psychologie expérimentale, Alessandro Dosilio, qui s'est demandé donc si les chefs d'orchestre était vraiment utile et qui a mis en place tout un dispositif censé pouvoir donner une réponse à cette question. Alors il a observé deux chefs d'orchestre en train de diriger des violonistes de l'orchestre de la ville de Ferrara dans 5 passages différents de la 40e symphonie de Mozart avec un réflecteur infrarouge qui était fixé à la pointe des archers des violonistes d'une part et aux baguettes des deux chefs d'orchestre d'autre part, ce qui permettait donc d'indexer le mouvement des archers et des baguettes et donc les interactions entre les musiciens et le chef d'orchestre. Et ils ont ensuite fait écouter les interprétations à des musiciens professionnels pour les évaluer et qui ont jugé que les passages les plus dirigés, ceux qui avaient le plus d'interactions repérées par infrarouge, étaient effectivement de meilleure qualité musicalement que les autres. Mais comme c'est un travail de psychologie expérimentale, le questionnement du chercheur portait surtout sur le rapport d'influence et sur l'efficacité de l'influence du chef d'orchestre. Et c'est pour ça que les conclusions d'Alessandro Dosilio se formulent en termes de leadership. Il dit « Nous montrons que l'augmentation de l'influence du chef d'orchestre sur les musiciens, ainsi que la réduction des relations musicien-musicien, qui est un indice de leadership efficace, va de pair avec la qualité de l'exécution telle que jugée par des experts. » Alors on pourrait dire aussi que les deux chefs d'orchestre s'en sont bien tirés et que tous les chefs ne sont évidemment pas à égalité d'utilité selon la manière dont ils dirigent et la manière dont ils vont effectivement arriver à créer interaction avec leurs musiciens. On peut même tenir le raisonnement suivant, si la baguette est à la main droite et donc en charge de la part objective de ce qu'un chef doit délivrer aux musiciens, on doit se demander ce qu'il peut bien transmettre avec la main gauche. Et si la rigueur métrique devait lui faire défaut, y compris à la main droite, ce qu'il peut bien transmettre avec deux mains gauches. Alors c'est le soupçon qui pèse quelquefois sur le style de direction de grands chefs d'orchestre, comme par exemple Karajan, qui aurait le geste si suggestif que les musiciens ne sauraient pas quand partir. Et à la fin de sa vie, il poussait la suggestion jusqu'à une telle économie de gestes qu'on pensait qu'il misait sur une forme de télépathie avec ses musiciens. Et on raconte une anecdote qui voulait qu'à cause d'un geste un peu trop flou, un flûtiste ce soit un jour manifesté en demandant « Maestro, avec tout le respect que je vous dois, quand dois-je démarrer ?» Et Karajan lui aurait répondu « Vous démarrez quand vous ne le supportez plus. » Ce qu'on peut en fait interpréter comme une espèce d'excès de pouvoir ou du moins un excès de monopole sur la musique, puisque ça veut dire « La vraie musique n'est que dans la tête du chef et que le travail de l'exécutant est de servir la conception du chef. » Et c'est là qu'il y aurait une espèce de rapport entre la générosité du geste et le partage de la musique entre le chef et entre la générosité du geste et le partage de la musique entre le chef et ses musiciens. Et ce qui n'est pas complètement vrai, puisqu'on a de fait l'exemple du chef qui arrête de diriger pour en fait mieux faire exister ses musiciens, qui est une sorte d'exemple absolu d'économie de geste lié à une quasi totale délégation de responsabilité à ses musiciens. Et l'exemple parfait est un document qui circule sur beaucoup de forums. C'est un concert de l'Orchestre Philharmonique de Vienne au Musikverein en 1983. Il faut dire que c'est un moment particulier du concert. C'est le bis du dernier mouvement de la symphonie en sol numéro 88 de Haydn, avec donc Leonard Bernstein à la direction ou presque. Alors c'est le genre de document qui peut être utilisé et qui d'ailleurs est utilisé dans les séminaires d'entreprise pour illustrer ce qu'est un manager qui laisse ses partenaires s'exprimer, qui ne fait rien d'autre que d'incarner le bonheur d'être là et d'œuvrer ensemble, qui admire ses collaborateurs, puisque tout le jeu est alors de filer la métaphore de la direction d'orchestre comme activité de leadership. Et pour Itai Talgam, cette vidéo est une sorte de summum de complicité entre le chef et l'orchestre. Alors Itai Talgam est diplômé en philosophie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est devenu chef d'orchestre au moment de son service militaire. Il a suivi un cours d'été donné par Leonard Bernstein à Fontainebleau et il donne maintenant des séminaires, des ateliers autour de l'orchestre symphonique comme exemple du travail d'équipe bien organisé, donc modèle de leadership. Et de fait, la métaphore du chef d'orchestre en manager peut paraître un peu étrange puisque c'est le genre de métaphore qui ne vaut que si on peut l'affiler, alors qu'à peine a-t-on commencé à la creuser qu'on bute sur ses limites. Parce que par exemple, si on dit un bon chef d'orchestre est un chef d'orchestre qui sait choisir les meilleurs musiciens, pour mieux sous-entendre qu'un bon manager est un manager qui sait choisir les meilleurs partenaires, eh bien on devra se dire tout bêtement que en fait ça dépend des chefs d'orchestre les plus grands, sachant parfois tirer le meilleur des pires musiciens. Cela dit, ça ne doit pas forcément condamner l'exercice de comparaison, puisqu'alors on pourra prendre l'idée que les différents styles de direction d'orchestre sont aussi différents styles de management, et c'est justement ce que fait Itai Talgam. Itai Talgam qui a fait une allocution TED qui fait la synthèse de ses visions en matière de style de direction d'orchestre requalifié en termes de style de management et qui prend pour contre-exemple parfait Riccardo Muti, contre-exemple parfait au sens d'un monopole de la vérité sur l'ouvrage qu'il prend aussi en exemple chez Karajan.
See, it's a completely different figure, right? He's awesome, he's so commanding, yeah? So clear, maybe a little bit over clear. Can we have a little demonstration? Would you be my orchestra for a second? Can you sing, please, the first note of Don Giovanni? You have to sing, oh, and I'll stop you, okay? Ready? But, come on, with me. If you do it without me, I feel even more redundant than I already feel. So please, wait for the conductor. Now, look at me, and I stop you. Let's go. So we'll have a little chat later. But there's a vacancy for a... you could see that you could stop an orchestra with a finger. Now, what does Riccardo Muti do? He does something like this. And then sort of, so not only the instruction is clear, but also the sanction. What will happen if you don't do what I tell you? So does it work? Yes, it works. To a certain point, when Muti is asked, why do you conduct like this? He says, I'm responsible. Responsible in front of him. Now he doesn't really mean him, he means Mozart, which is like the third seat from the center. So he said, if I'm responsible for Mozart, this is going to be the only story to be told. It's Mozart as I, Riccardo Muti, understand it. And you know what happened to Muti? 3 years ago, he got a letter signed by all 700 employees of La Scala, musical employees, I mean, the musicians, saying, you're a great conductor. We don't want to work with you. Please resign. Why? Because you don't let us develop. You're using us as instruments, not as partners. And our joy of music, etc., etc. So he had to resign. Isn't that nice? No, he's a nice guy. He's a really nice guy. Can you do it with less control or with a different kind of control?
Et la réponse est oui, vous pouvez faire un autre type de contrôle et le discours d'Ita Italga, mais donc de dire par exemple Carlos Kleiber, par exemple Leonard Bernstein laissent être leurs collaborateurs, leurs musiciens et donc sont des modèles de manager. Alors là où la métaphore du chef d'orchestre en manager a encore des limites, c'est qu'elle va toujours dans le même sens, alors que le bénéfice symbolique que le chef d'orchestre donne au manager n'est pas forcément symétrique. C'est une remarque qu'a faite Esteban Bourg en conclusion d'une réflexion sur la pertinence des métaphores politiques qu'on prête aux figures de chef d'orchestre au nom des pratiques d'autorité qu'ils doivent avoir. Il écrit « Comparer un chef d'orchestre à un homme politique n'est pas forcément lui rendre hommage. En revanche, l'homme politique est toujours sympathique lorsqu'il prend l'habit du chef d'orchestre. » Alors c'est sans doute pourquoi les séminaires d'entreprises avec des chefs d'orchestre qui donnent leur savoir en modèle de bonne manière de conduire une équipe vers une performance collective harmonieuse sont tellement à la mode. Et pour finir, je voudrais simplement citer un extrait du livre de Désiré-Émile Engelbrecht, qui était le fondateur de l'Orchestre National de France et qui avait écrit « Le chef d'orchestre et son équipe » et qui avait la particularité stylistique d'aimer bien baliser sa pensée avec des mots latins. Et donc dans ce livre-là, il invite deux personnages qui seraient les extrêmes qu'il ne veut pas être, et ça va me permettre de boucler la boucle. Il prend comme première figure le professeur Metronomus, et Engelbrecht accuse ce type de chef d'orchestre de barbouiller ses partitions de graffiti, qui compare aux petits placards transparents collés aux glaces des autos pour rappeler aux apprentis chauffeurs la signification des signes routiers. Et Engelbrecht accuse surtout ceux qu'il surnomme Metronomus de compter sur les chiffres de battement à la noire et à la croche plutôt que sur leur instinct. Mais d'un autre côté, en contraste à cette arithmétique et à la mécanique de Metronomus, il s'en prend aussi à ce type de chef qui en fait des tonnes avec son instinct et qu'il surnomme il maestro comédiante, qui ne jure que par sa dynamique, Engelbrecht parlant plutôt et tout d'un coup de sa gymnastique, sa trépidation, ses torsions, ses contorsions, ses piéffements et ses trémoussements. Et ce qu'il préconise, c'est d'être dans une espèce d'entre-deux qui, en même temps, va être un entre-deux particulièrement favorisé par la musique française, la musique de Forêt, la musique de Debussy, la musique de Ravel, dont il va se faire l'ambassadeur aussi en tant que directeur musical de l'orchestre National de France. Cela dit, il idéalisait un chef d'orchestre qui s'appelle Arturo Toscanini, chef d'orchestre qui reste pourtant une espèce d'emblème de l'autoritarisme que peuvent avoir certains chefs d'orchestre. Donc pour finir, je vais vous faire entendre seulement le son d'une répétition avec Arturo Toscanini. Voilà qui est aussi un style de management. Merci.